Pour le gouvernement officiel, la situation est effectivement bien difficile, tout simplement parce que il ne tient plus la capitale depuis plusieurs mois. Et le président de la transition, Abdelhabou Mansour Hadi, a lui-même fait le choix de se replier à Aden, dans le sud, où le gouvernement, on va dire, légitime, a finalement assez peu d'appui. Et d'une part, il a été délogé par la rébellion houthiste qui avait pris la capitale en septembre.
Et là, qui continue son avancée vers Aden.
Qui continue son avancée, effectivement, vers le sud. Mais cette avancée ne peut être, je veux dire, comprise qu'à partir du moment où on intègre le fait que les houthistes se sont alliés notamment aux partisans de l'ancien président Saleh, donc qui a été déposé en 2012, et ce que ça implique d'une certaine manière de quitter une logique purement confessionnelle qui amènerait à considérer qu'on a un conflit entre des sunnites qui seraient représentés par le président Hadi et puis des chiites représentés par la rébellion houthiste.
Ces deux camps en présence, pour simplifier, est-ce que ce sont vraiment deux visions politiques différentes de la société ou est-ce que ce sont finalement plus des rivalités de personnes?
Les visions et les politiques qui sont mises en avant par un côté et l'autre sont assez peu dissemblables. Hein. L'essentiel de la conflictualité aujourd'hui se résume à cette question de la rivalité en fait entre des élites qui sont des élites très largement corrompues.
Ce qui pourrait constituer un espoir dans le sens où corruption pour corruption, on peut toujours s'entendre.
Alors c'est effectivement une des sources qui a constitué le ciment du Yémen pendant de nombreuses années. Hein. Le problème, c'est que finalement, la transformation des promesses du processus révolutionnaire a tardé à se mettre en place et que les élites qui, un temps, avaient finalement accepté de mettre leurs propres ambitions de côté ont cherché à récupérer la mise d'une certaine manière.
On a dit que les houthistes étaient soutenus par l'Iran, le Hezbollah. Est-ce que c'est probable ?
Oui, c'est tout à fait probable. On a eu, c'est une accusation qui existe depuis longtemps. Hein. Les houthistes étaient une rébellion qui a émergé en 2004. Entre 2004 et 2010, on a eu un combat contre l'État central. Et cet appui, on va dire, de l'univers chiite, hein, par le Hezbollah et puis par l'Iran, n'avait pas été prouvé. Depuis leur installation à Sanaa, c'est devenu quelque chose de manifeste. Dans le même temps, cet appui, on va dire géopolitique, cet appui symbolique et qui a une forte connotation religieuse, n'est sans doute pas central ou fondamental pour comprendre la structure du conflit. On a avant tout des luttes entre différentes élites.
Et comment est-ce qu'on pourrait en sortir justement de ce conflit ? Là, les houthistes ont renoncé à prendre part à des pourparlers si ceux-ci étaient conduits à Riyad sous l'égide de l'Arabie saoudite, en estimant que l'Arabie était partie prenante et soutenait le président Hadi. Comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, si ce n'est par une guerre plus large encore ?
Il y a d'autres villes, d'autres je dirais pays qui pourraient s'impliquer. Le rejet de pourparlers à Riyad n'est pas enfin ne doit pas être considéré comme un rejet complet des pourparlers. Donc je pense que c'est à la communauté internationale aujourd'hui de finalement prendre ses responsabilités et de s'impliquer, notamment en considérant que le gouvernement légitime n'est pas que à Aden, mais qu'un certain nombre d'acteurs qui sont encore à Sanaa sont à même de jouer un rôle important.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer que le Yémen, dans un avenir plus ou moins proche, se resépare entre nord et sud, puisque finalement c'est un État assez récent ?
Oui, alors c'est l'option qui aujourd'hui semble la plus envisageable. Hein. Le geste du président Hadi de se réfugier à Aden et d'y affirmer la légitimité et la poursuite de sa légitimité constitutionnelle pose un certain nombre de problèmes parce que la population du Sud est très largement acquise à une option sécessionniste. Depuis quelques années, on a eu l'émergence d'un profond mouvement qui contestait les termes de l'unité et demandait un retour à l'ancien système. Malheureusement, aujourd'hui, il y a finalement assez peu de liens, hormis le conflit, qui permettent de raccrocher le nord au sud. Mais il faut malgré tout bien garder à l'esprit que, et dans le nord et dans le sud, on a des conflits forts au sein même de ces entités-là, et que les élites elles-mêmes ne fonctionnent pas main dans la main. Et donc cette fragmentation, plutôt qu'en deux entités, donc une situation, on va dire, pré-1990, c'est-à-dire pré-unification des deux
Réunification.
Yémen, est très peu envisageable. Hein. On aura bien davantage une fragmentation forte. Et cette fragmentation-là a toutes les raisons d'inquiéter la communauté internationale, parce qu'elle laisserait aussi des pans entiers de territoire à sans doute des mouvements djihadistes, que ce soit Al-Qaïda dans la péninsule arabique ou l'État islamique.
Mais qu'est-ce qui pourrait réellement pousser les Occidentaux à intervenir quand on voit que en Syrie, il n'y a toujours pas eu d'action forte de menée?
Alors, il y a des interventions, je veux dire, qui sont autres que militaires. Il peut y avoir déjà un soutien réel à l'économie, et puis un soutien réel et des pressions qui seraient mises non seulement sur les houthistes, mais aussi sur le pouvoir de Hadi aujourd'hui, qui semble malgré tout avoir pris des options qui ne sont que faiblement constructives. Hein.